Il est midi en temps universel, 14h à Rome. Bonjour Sophie Pouzrat.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Un journal aujourd'hui consacré évidemment à la mort du pape François. Survenu ce lundi de Pâques, tôt ce matin, le Vatican a annoncé le décès du chef de l'Église catholique à l'âge de 88 ans, alors qu'hier François avait participé aux célébrations pascales. Très affaibli par une double pneumonie qu'il avait envoyée à l'hôpital au début de l'année, il avait tout de même prononcé sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, et souhaité de bonne fête de Pâques aux croyants.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Voilà la dernière allocution publique du pape François hier devant la place Saint-Pierre à Rome, remplie de fidèles pour l'occasion. Camille Dalmas, vous êtes en ce moment sur la place Saint-Pierre et aujourd'hui, c'est l'émotion qui domine depuis l'annonce de la mort du pape.
Oui, depuis ce matin, depuis l'annonce, une grande foule s'est rassemblée sur la place Saint-Pierre. Aujourd'hui, des fidèles du monde entier, parce que on est en plein jubilé, s'y retrouvent. Je viens de croiser un groupe de pèlerins du Bangladesh. Qui était en tête une dame qui portait la croix avec des lourdes larmes sur le visage. Donc, une émotion palpable. Les personnes interrogées disent leur proximité avec le pape. Ce pape qui, de cette façon, était un peu le leur. Il sentait quelqu'un, un pape du peuple. Quelque chose qu'on entend souvent. Voilà. C'est un pape qui était proche d'eux, qui leur parlait, un pape qui parlait à un monde qui change vite, voilà, qui était capable de s'adapter à ce monde-là. Voilà. Donc, une émotion palpable et de plus en plus de fidèles qui se rassemblent, qui arrivent autour de la place Saint-Pierre. Voilà. Pour essayer ne serait-ce que de palper un moment, un instant de ce jour historique.
Jour historique. Et à présent, quel processus s'enclenche pour les funérailles du pape, Camille?
Eh bien, il va y avoir la première étape du rite des funérailles qui va commencer ce soir à 20h avec tout simplement la reconnaissance officielle de la mort du pape. Alors, la mort a été annoncée, mais il y a tout un rituel qui doit se mettre en place avec notamment le pape va être mis en bière. Alors, le cercueil ne sera pas refermé, mais voilà, c'est les premiers moments. Ce ne sera pas retransmis. On communiquera sur ce moment-là. Et puis après, se lanceront, je dirais, le rassemblement des cardinaux pour préparer les funérailles en tant que telles, c'est-à-dire la messe qui pourra arriver d'ici la fin de la semaine.
Merci beaucoup Camille Dalmas, en direct depuis à la place Saint-Pierre au Vatican pour réagir. La mort du pape François, Jorge Maria Bergoglio, de son nom civil, il avait créé la surprise en 2013 en devenant le premier pape originaire d'Amérique latine. De nationalité argentine, ancien archevêque de Buenos Aires, François laissera l'image du pape des pauvres, des migrants, du dialogue interreligieux également. Théo Conscience, vous êtes à Buenos Aires devant la cathédrale de la ville justement, où une messe en l'honneur du pape a lieu en ce moment même.
Oui, la capitale qui continue de se remplir, la messe a commencé il y a une demi-heure, mais les gens continuent d'arriver en dépit de l'horaire matinal. Il est à peine 9h ici à Buenos Aires, mais beaucoup de gens se sont déplacés, beaucoup de jeunes surtout sont venus rendre un dernier hommage au pape, à leur pape, le premier pape argentin de l'histoire. Les Argentins se sont réveillés avec cette nouvelle ce matin. Immédiatement, l'archevêque de Buenos Aires a donc convoqué à cette messe ici dans la cathédrale. À l'intérieur de la cathédrale, les visages sont fermés, il y a de la pudeur, des larmes qui coulent en silence. Et l'archevêque vient à l'instant d'appeler les fidèles à faire vivre l'héritage de François en tendant la main notamment aux plus pauvres. Un message que François a emmené avec lui au Vatican. Et d'ailleurs aujourd'hui, il faudra voir ce qui se passe dans les villas, les bidonvilles, les quartiers populaires de la capitale argentine, où le pape avait l'habitude d'aller bien souvent quand il était archevêque de Buenos Aires. Ces quartiers populaires dans lesquels il a laissé l'image et le souvenir d'un homme simple et accessible. Côté politique, il y a eu une réaction du président argentin Javier Milei ce matin, le président argentin qui a eu une relation très compliquée avec François jusqu'à son élection. Et bien sur Twitter, il a fait part de sa douleur. Il a aussi dit que, en dépit de ces différences qui pouvaient exister, mais qui aujourd'hui sont finalement sans importance, et bien c'était un honneur pour lui de connaître le pape. Et il a décrété 7 jours de deuil national.
Théo Conscience, qui était en direct de Buenos Aires, en Argentine, pays natal du pape François. Alors depuis l'Argentine au Vatican, en passant par la ville sainte de Jérusalem, le monde catholique pleure la mort de son chef. Abla Junaidi, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Comment cette nouvelle a été reçue dans la vieille ville de Jérusalem ?
Écoutez, beaucoup de personnes ont appris la nouvelle de ma bouche, en fait, ce matin. Il faut dire que beaucoup de fidèles sont ici dans la vieille ville pour se recueillir, pour prier. Ils n'ont pas jeté un œil à leur téléphone. ont prié pour sa santé, m'a même confié Ebété, une fidèle burkinabé, en apprenant la mort du pape François. Beaucoup d'émotions pour certains. Les uns saluent la figure universelle qui s'éteint, le pape qui a un mot pour toutes les souffrances des hommes, d'où qu'ils viennent, pour les pauvres aussi, de la part du pape franciscain. Ce sont surtout les pèlerins chrétiens étrangers qui soulignent cet aspect de sa personnalité. J'ai aussi parlé à des Palestiniens, chrétiens comme musulmans. Ils tiennent un autre langage, pour ceux à qui j'ai parlé en tout cas, à savoir que le pape, malgré ses appels à la paix et à la fin de la guerre à Gaza, n'a rien pu changer à leur sort. La mort de dizaines de milliers de civils à Gaza, les taux de l'occupation israélienne qui se resserrent chaque jour un peu plus, tout cela n'a pas changé malgré les prises de position du pape. Donc c'est un sentiment plus mitigé pour ces Palestiniens que j'ai interrogés ici dans la vieille ville. Malgré tout, une messe sera célébrée en l'honneur du pape François ce mercredi en la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Voilà les précisions d'Abla Jounaïdi, qui était notre envoyé spécial depuis Jérusalem en direct pour RFI. Alors la mort du pape bouleverse les fidèles du monde entier évidemment, mais elle fait aussi réagir les dirigeants de la communauté internationale. Depuis l'annonce de son décès ce matin, les prises de parole s'enchaînent, comme c'est le cas pour le président français Emmanuel Macron. Écoutez.
Je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment. La grande douleur, je le sais, qui est partagée par beaucoup en France, mais à travers la planète. Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier. Leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois. Et il a, durant tout son pontificat, été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé, et à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup.
Voilà la réaction du président français Emmanuel Macron au décès du pape François. Notez que la conférence des évêques de France a réagi elle aussi. Elle estime que le pape François a, je cite, appelé l'humanité à croire en la fraternité à l'international, je vous le disais. Les réactions s'enchaînent également du côté de l'Iran, qui présente ses condoléances. Le président israélien, lui, salue, je cite, un homme de foi profonde, de compassion sans fin. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, elle, indique qu'un grand homme nous quitte. En Espagne, le Premier ministre salue l'engagement du souverain pontife envers les plus vulnérables. Le chancelier allemand, lui, exprime sa profonde tristesse, salue la mémoire d'un homme, je cite, guidé par l'humilité et la foi en la miséricorde. Le chef de l'ONU du climat, lui, évoque un champion inébranlable de l'action en faveur du climat, car il faut dire que depuis son élection en mars 2013, après la démission de Benoît XVI, le pontificat de François a été marqué par des prises de position progressistes pour l'accueil des réfugiés, la justice sociale, mais aussi pour son plaidoyer en faveur de la défense de l'environnement. Les précisions de Pauline Glaise.
Le pape François n'a pas été le premier souverain pontife à s'inquiéter des problèmes environnementaux, mais il a été le premier à publier en 2015 une encyclique entièrement consacrée à l'écologie. Dans Laudato Si, il promeut le concept d'écologie intégrale qui lie environnement, social et spiritualité. Un texte politique, souligne Dominique Lang, journaliste à Pèlerin.
C'est important de souligner qu'il a été publié 6 mois avant la COP21. Avec une prétention presque explicite de toucher les cœurs et les consciences des responsables politiques de l'époque. Et on a vu que probablement ça fait le travail, puisque un certain nombre de ces responsables ont remercié, au moment de la signature de la COP21, ont remercié le pape François d'avoir publié ce texte.
Il remet ça avec la lettre apostolique Laudate Deum, publiée quelques semaines avant la COP28. Le pape François y regrette que nos réactions soient insuffisantes alors que le monde s'approche peut-être d'un point de rupture. S'il ne s'est pas défini comme un pape vert, il a choisi son nom en référence à saint François d'Assise, surtout connu pour sa proximité avec les pauvres. Il avait aussi été nommé patron de l'écologie. Pourtant, Jorge Mario Bergoglio n'a pas toujours eu l'écologie chevillée au corps. Sa prise de conscience s'est faite en 2007 lors d'une conférence des évêques latino-américains au Brésil.
Les précisions de Pauline Glaise, fin de ce journal marqué par la mort du pape François, qui reste au cœur de notre édition spéciale.
Qui se poursuit tout de suite. Merci Sophie Pouzrat. Notre édition spéciale après le décès du pape François. Il avait 88 ans et jusqu'au bout, le souverain pontife était resté mobilisé. Il était apparu hier au balcon de la basilique Saint-Pierre, quelques minutes seulement, devant une foule en liesse, à qui il a adressé quelques mots. Il avait souhaité de joyeuses Pâques aux fidèles. Avec nous, Geneviève Delru, que nos auditeurs connaissent bien ici à RFI. Geneviève, vous avez présenté pendant des années l'émission Religion du Monde sur notre antenne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, contrairement à ce qui avait été évoqué, notamment au moment où le pape avait dû être hospitalisé, il n'y a pas eu de renonciation. François était resté à son poste.
Absolument. François avait dit d'ailleurs, quand il était obligé de se déplacer en fauteuil roulant à partir de 2022, il avait dit on ne gouverne pas avec les genoux. Alors c'est vrai qu'il comptait vraiment aller le plus loin possible et on le voit quand même hein, mourir dans ces conditions-là juste après Pâques, hein, juste après le dimanche de Pâques. C'est vraiment un homme qui a voulu accomplir sa mission. On peut dire aujourd'hui d'ailleurs mission accomplie et est sorti quand même par la grande porte. Hein. Donc, la question de la renonciation ne se posera pas. De toute façon, dans son entourage, on laissait entendre qu'il n'en avait vraiment pas l'intention, même s'il avait dit que si ses capacités mentales, physiques, ne lui permettaient plus de continuer sa mission, il n'empêche que François était un homme opiniâtre, j'allais dire volontaire, hein, on le voit, et il comptait bien aller encore très loin, même si là, effectivement, ses forces déclinaient et que ça aurait été extrêmement compliqué pour lui de poursuivre sa mission de pape.
Alors, je vous propose d'écouter la réaction d'une fidèle catholique pratiquante. Elle s'appelle Muriel et elle a été rencontrée par notre reporter tout à l'heure sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris.
L'image d'un pape qui se souciait des plus pauvres, qui collait beaucoup, je trouve, à l'actualité du monde, de tous les pays dont on se préoccupe moins. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est qu'il a écrit des encycliques qui sont vraiment, pour moi, prophétiques, quoi, qui sont des messages à méditer toujours sur l'écologie intégrale, la vie plus sobre qu'on nous appelle à vivre et qui est indispensable, en fait. Lui, il se souciait de ça. L'autre encyclique sur Fratelli Tutti, pour dire qu'on doit vivre cette fraternité que Jésus nous a appelés à vivre, quoi. Soyez des frères et sœurs les uns pour les autres, quoi.
Le prochain, comment il doit être? Est-ce que vous avez une préférence?
Ce prochain-là, ce sera celui dont on a besoin pour les années à venir, quoi. Peut-être dans la continuité, mais il sera content pour rien de son époque et il aura quelque chose à nous dire. Ça sera très beau de voir ça. Il faut faire confiance.
Des propos recueillis tout à l'heure devant la cathédrale Notre-Dame à Paris. Geneviève Delru, vous gardez la même image du pape François, de son pontificat, que cette fidèle que l'on vient d'entendre?
Oui, c'est un pape. En tous les cas, j'ajouterais, c'était un pape de la réforme, un pape qui a voulu réformer l'Église, réformer la curie, hein, bien sûr. Parfois, d'ailleurs, ça a créé bien des remous au sein de la curie. Réformer aussi le gouvernement de l'Église en général, c'est-à-dire que cette Église soit gouvernée de façon moins verticale, c'est-à-dire qu'il y ait une décentralisation, que les évêques locaux aient plus de pouvoir, mais dans le même temps, il faut être aussi, là aussi, il faut être lucide, François était un pape autoritaire. Donc, il y avait quand même probablement ce paradoxe chez lui d'une Église qu'il voulait décentraliser, et en y voyant là l'avenir de l'Église, en effet, mais en même temps, il voulait quand même garder le gouvernail. Hein.
Sur un certain nombre de points, certains lui ont reproché de ne pas être allé suffisamment loin. Est-ce que selon vous, il a fait avancer quand même certains dossiers en se distinguant de précédents papes avant lui?
Oui, alors bon, ben, je pense par exemple, tenez, aux divorcés remariés. Bon, toute la fameuse question pour des catholiques pratiquants qui étaient divorcés de ne pas pouvoir communier, c'était pour eux une frustration. Il a, alors d'une certaine façon, à la jésuite, un peu contourné le problème en disant voilà que il faudrait. Il a pas dit clairement voilà maintenant c'est fini, tous les divorcés remariés pourront aller communier, mais il a simplement dit eh bien écoutez, ça sera au prêtre de décider en fonction du chemin qu'auront parcouru le nouveau couple, etc. De pouvoir, enfin si les personnes effectivement étaient remariées, le nouveau couple pourra oui ou non aller communier. Par exemple, c'était une façon, j'allais dire un peu jésuite, mais bon, ça a fait avancer quand même les choses et ça n'a pas forcément plu. Il y a en effet il avait une façon en fait d'aborder les questions, j'allais dire actuelles, en les contournant. Par exemple, je pense aussi, puisqu'on va rester dans le domaine du couple, eh bien, au couple homosexuel, il avait avancé l'idée, il avait même dit très clairement que, en effet, les couples homosexuels pourraient recevoir une bénédiction. Mais là encore, avec un certain nombre de, j'allais dire, d'allégements. Enfin, c'était pas un mariage du tout, c'était pas une bénédiction comme un mariage, bien sûr. Hein. Mais là aussi, ça avait créé des, en effet, des remous, notamment au sein de l'Église d'Afrique, hein, qui ne voyait pas du tout les choses de cette façon-là. Voilà, ça c'était le style Pape François, un style assez jésuite, on va dire.
Alors, il y a ce qu'il a fait pour l'Église, et puis il y a aussi ses prises de position internationales, disons.
Alors, il a ses prises de position internationales. Alors, si on veut prendre, par exemple, la question ukrainienne, en effet, François était quand même un pape qui clivait, faut pas l'oublier, hein, clivait sur des questions comme celles que l'on vient d'évoquer, clivait, par exemple, concernant la question migratoire, hein, très nettement, mais aussi sur des questions internationales. Peut-être que la géopolitique n'était peut-être pas, on va dire, sont plus forts, hein, contrairement par exemple à un Jean-Paul II, mais c'est pas non plus la même période. C'était aussi un pape sud-américain qui ne comprenait peut-être pas forcément les questions européennes, par exemple. Mais je sais que sur l'Ukraine, il a pu en effet décevoir. Par exemple, lorsqu'il y a à peu près une année, quand il avait dit que bon, c'était peut-être temps de négocier, de monter le drapeau blanc, les Ukrainiens avaient très mal pris ça, même si on voit bien sûr que aujourd'hui il faut une négociation absolument. Mais cette idée de drapeau blanc avait été, bon, pour un peuple qui était en pleine bataille, en pleine souffrance, ça avait été mal pris. Voilà. Il y a des questions sur lesquelles, géopolitiques, il n'a pas toujours, en effet, été bien compris.
Alors, on va en parler justement, Geneviève Delrue, avec notre invité Christian Makarian, éditorialiste au Point et à Radio Classique, spécialiste de la géopolitique du Vatican. Bonjour.
Bonjour.
Au cours de son pontificat, le pape François a effectué 47 voyages à l'étranger. Quelle était la ligne directrice de sa diplomatie ?
Écoutez, je crois que la première ligne, ça consistait pour le pape François à être présent là où les autres n'allaient pas. C'est-à-dire exactement là où ça fait mal. Et c'est ainsi qu'il a débuté son pontificat en choquant beaucoup de catholiques, puisqu'en juillet 2013, il s'est rendu à Lampedusa, ce qui était une manière quand même de dénoncer la politique suivie par l'Italie et par toute l'Union européenne, une sorte d'indifférence. Et il a utilisé à l'époque des mots très forts en parlant de mondialisation de l'indifférence. Donc oui, c'est un pape qui est allé là où ça faisait le plus mal, notamment aux démocraties, aux dictatures. C'était pas pour lui un critère tout à fait déterminant, comme vient de le dire Geneviève Delrue. Jean-Paul II, lui, avait énormément souffert de la dictature communiste et en avait fait un objectif, quelque part, de libérer les peuples de cette forme d'oppression. C'était pas l'objectif, ni la culture personnelle, ni la provenance du pape François. Lui, il était porté, le pape François, vers la misère, vers la souffrance humaine. Et peu lui importait, finalement, si ça déplaisait à tel ou tel autre chef d'État. Moyennant quoi, c'est un pape qui, paradoxalement, a eu quand même des relations assez délicates avec pas mal de chefs d'État, de démocratie, le dernier en date étant évidemment Donald Trump.
Oui, parce qu'il avait rencontré hier le vice-président américain J.D. Vance. On aura l'occasion d'y revenir. On appellera notre correspondante aux États-Unis. En fait, cette ligne que vous évoquiez, elle l'a amené aussi souvent à se rendre dans des pays qui, on a l'impression, dans des pays qui n'intéressaient pas le Vatican auparavant.
Oui, mais ça, peu de gens comprennent quelle était sa démarche. Quand il va en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ou à Singapour où 4,5% de la population est catholique, ce n'est pas pour faire des catholiques, ce n'est pas pour baptiser à tour de bras, c'est pour marquer la présence universelle de l'Église. Quelque part, le pape François a rappelé quelque chose de très fort. La première organisation historique de l'histoire à avoir été une organisation mondialisée, c'est l'Église catholique. Elle était présente sur tous les continents. Alors, on peut ensuite apprécier de manière variable la façon dont elle s'est imposée en Amérique latine ou ailleurs à travers, bien entendu, les vecteurs classiques de la colonisation, c'est-à-dire beaucoup de violence, d'injustice et même de barbarie. Mais peu importe, ce n'est pas le pape François qui en est le responsable. Il hérite d'une situation où, en gros, il a deux possibilités, ou bien réaffirmer un catholicisme flamboyant, ce qui n'est pas son style, verrait l'Occident comme pôle d'attraction principale, ou bien alors voir l'Église comme un ensemble multipolaire engagé dans le multilatéralisme, et dans ce cas-là, aller au Moyen-Orient ou dans des pays musulmans, aller rencontrer en Irak quand même le chef des mollahs chiites comme il l'a fait, ou bien se rendre à la mosquée Al-Azhar organiser un véritable dialogue avec l'islam. Tout ça n'a pas pour but de modifier la sphère géopolitique, ce n'est pas le sens du message chrétien. Tout ça a pour but de mettre encore une fois l'Église au cœur de la fournaise.
Avec c'est notamment un rapprochement qui était assez inattendu avec Pékin en 2018.
Oui, vous avez tout à fait raison, et j'allais y venir. C'est très significatif, le pape n'a pas obtenu un changement du régime chinois, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas ça le but, et ce n'est pas ainsi qu'on peut comprendre sa démarche. Le pape a tout simplement voulu régulariser les choses afin qu'une présence catholique soit en quelque sorte pacifiée et normalisée. Un accord a été conclu en 2018 qui a été renouvelé, et puis renouvelé encore, et on ne sait pas ce qui va être de la suite, mais tout de même, ça aboutit par exemple à la nomination d'un évêque dit souterrain, l'acceptation par Pékin du fait qu'il soit nommé. Donc là, le pape a fait quand même quelque chose d'important. Il y a la tâche, bien sûr, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur, de l'Ukraine, d'autant plus qu'en Ukraine, il y a une forte minorité uniate catholique, donc on a beaucoup de mal à comprendre comment le pape s'y est pris. Je pense qu'il s'y est pris quand même assez mal, mais il faut comprendre quelle était son idée au départ. Il pense que le primat de l'orthodoxie étant à Moscou, il faut commencer par là. Et donc, pour lui, le dialogue, est le plus important, c'est que le dialogue soit instauré à partir de la cessation des hostilités.
Ce qui avait généré des tensions avec Kiev, on a eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, il y a une demi-heure. Il avait aussi été très critique de l'Union européenne. Il avait parlé de la vieille Europe en disant une grand-mère d'une Europe qui n'est plus féconde et vivante. C'est quand même assez inhabituel de la part d'un chef de l'Église catholique.
Oui, mais c'est vrai, il a donné l'impression de tourner le dos à l'Europe, disons-le clairement. Oui, sauf que quand on regarde dans le détail, sur 47 visites pastorales internationales du pape depuis son intronisation, 17 ont été effectuées dans des États membres de l'Union européenne. Et certains États l'ont accueilli à plusieurs reprises. La France, par exemple, qui est le pays... paradoxalement, qu'il a le plus visité au monde en dehors de l'Italie, puisqu'il a visité à trois occasions, en novembre 2014 à Strasbourg, en septembre 2023 à Marseille et en décembre 2024 en Corse. Alors qu'est-ce qu'on a retenu ? Bah, c'est que quand il est en Corse, eh bien il va pas à l'inauguration de Notre-Dame. Voilà ce qui a choqué. Eh bien ce pape est allé en Corse, chez les petits, chez les humbles, dans un lieu réputé plus provincial, on va dire, même assez particulier, avec ses particularismes, la Corse. Eh bien, il y était heureux et il a rendu tous ceux qui l'ont vu là-bas tout à fait heureux. C'était un événement véritablement historique. Ce n'est pas l'Église de la pompe, de la cérémonie, des ostensoirs et de l'encens. Ce n'est pas cette Église-là. C'est l'Église qui va... là où les gens l'appellent et là où elle peut encore avoir quelque chose à faire. La célébration de Notre-Dame avec tout le parterre de chefs d'État qui s'y trouvaient ne convenait pas au pape François. Personnellement, j'y vois rien à dire, même si je trouve que l'opération Notre-Dame était un superbe succès international par ailleurs. Mais on peut comprendre l'attitude de ce pape. C'est un homme qui restera profondément original.
et qui s'était mobilisé notamment contre de nombreuses guerres. On l'avait entendu se mobiliser notamment contre les opérations en cours à Gaza.
Oui.
Je plaide pour la fin des opérations militaires qui continuent à faire des victimes civiles innocentes et pour que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant la porte à l'arrivée de l'aide. Il ne faut plus attiser la violence et la haine, mais trouver une solution à la question palestinienne par un dialogue sincère et persévérant entre les parties, soutenu par une forte volonté politique et l'appui de la communauté internationale. Combien de massacres d'innocents dans le monde, dans le ventre de leur mère, sur les routes des désespérés, en quête d'espoir, dans la vie de tant d'enfants dévastés par la guerre. Ce sont les petits Jésus d'aujourd'hui. C'est cela la guerre, un voyage sans but, une défaite sans vainqueur, une folie sans excuse. Mais pour dire non à la guerre, il faut dire non aux armes. Car si l'homme, dont le cœur est instable et blessé, a entre les mains des instruments de mort, tôt ou tard, il s'en servira. Et comment parler de paix si la production, la vente et le commerce des armes augmentent ?
Ce message du pape, il avait été répété hier encore. Il avait été lu par l'un de ses collaborateurs au balcon de la basilique Saint-Pierre à l'occasion de Pâques, où de nouveau il avait appelé à la fin des hostilités à Gaza. Sans effet, on l'a vu, est-ce que l'Église catholique a un moyen quelconque de peser sur ce type de conflit ?
Le but de l'Église, ce n'est pas une organisation politique, n'est pas d'agir et de tordre le fil des relations internationales qui est déjà largement assez tordu comme cela. Le but de l'Église, c'est de rappeler des principes là où plus personne ne s'en soucie. Et dire de petits Palestiniens qui sont à 95% tous des musulmans, que ce sont de véritables petits Jésus, je reprends l'expression du pape, c'est à la fois réancré dans l'histoire ce conflit, puisque c'est effectivement dans le pays de Jésus que ça se produit, mais c'est aussi dire que le message chrétien est le seul, dans l'esprit du pape, à être universel et à défendre la valeur de l'homme, quelles que soient les barrières qui séparent les civilisations, les cultures et surtout les religions. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas un pape qui est fait pour être catholique uniquement, c'est un pape qui est fait pour être chrétien, c'est-à-dire prêcher les valeurs du christianisme partout, y compris chez les non-chrétiens. Et ça, c'est très important à comprendre. Elle est là, l'originalité du pape François, et il le doit en grande partie aussi à la mixité très grande de la culture dans laquelle il est né, en Argentine, bien sûr.
D'ailleurs, de très nombreux hommages viennent du continent américain aujourd'hui, notamment d'Argentine, puisque le pape François était argentin. Le pays va décréter un deuil national de 7 jours. Des messages aussi venus des États-Unis. C'est important, les États-Unis, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le pape a rencontré hier brièvement le vice-président américain J.D. Vance. C'était un symbole assez fort pour le conservateur américain, parce que les rapports ont été assez compliqués entre le pape et l'administration Trump.
Oui, ils ont été compliqués, avec un paradoxe qu'il faut rappeler quand même, qui est très fort. La deuxième élection, enfin la réélection de Donald Trump, donc Trump en tant que 47e président des États-Unis, est très différente de l'élection de Trump comme 45e président des États-Unis. Les catholiques ont voté cette fois-ci majoritairement en faveur, nous le savons par un lourd appareil de sondage assez sophistiqué, les catholiques américains ont voté en majorité pour Trump.
Donc ça, c'était aussi évidemment une question à prendre en compte et qui a pu modifier les liens entre l'administration Trump et le chef de l'Église catholique. Je vous remercie beaucoup, Christian Makarian, d'avoir été en ligne avec nous, éditorialiste au Point et à Radio Classique.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Ce lundi 21 avril, Couleur tropicale est encore au cœur du FEMUA 17 qui a refermé ses portes. Couleur tropicale donnera la parole à la jeunesse, à la génération consciente de Daloa et aux acteurs de la musique d'une ville hautement musicale. Couleur tropicale à Daloa, la deuxième étape de la tournée africaine des 30 ans de...
Couleur tropicale avec Claudiciard.
Du lundi au vendredi à partir de 20h10 TU.
RFI.